J'étais d'accord. Savoir choisir du pinot noir, jouer du piano en amateur, être capable de tenir une conversation agréable, ce n'étaient pas des qualités qui lui auraient servi dans ce genre d'endroit. Excusez-moi, mais vous, Tanimura, vous est-il arrivé d'y penser? Vous êtes-vous demandé ce que vous deviendrez si vous vous trouviez dans l'incapacité d'écrire? J'entrepris de lui donner des explications. Je partais de l'hypothèse que j'étais entré dans la vie comme un être quasiment nu. Le hasard avait fait que je m'étais mis à écrire, et par bonheur, je pouvais vivre à présent de mes livres. Aussi n'avais-je nul besoin d'échafauder une vaste construction improbable, selon laquelle, par exemple, j'aurais pu être envoyé dans un camp de concentration, pour me confirmer que je n'étais qu'un simple humain, dénué de tout mérite ou de tout talent particulier. Tokai médita sérieusement mes paroles. Apparemment, c'était la première fois que quelqu'un lui faisait entendre ce genre de pensée. Oui, je comprends. Pour ceux qui vivent ainsi, c'est peut-être plus confortable, agréable. Je lui fis remarquer avec une certaine retenue que parler de confort ou d'agrément pour quelqu'un qui débutait dans la vie dans un état de rien, de nudité, n'était sûrement pas tout à fait approprié. Oui, bien entendu, répondit-il, vous avez raison. S'engager dans la vie sans rien, c'est sûrement très dur. En ce sens, j'ai bénéficié davantage que bien d'autres n'ont pas. Mais après avoir atteint un certain âge, bâti un certain style de vie et acquis une certaine position dans la société, c'est aussi très éprouvant de nourrir des doutes aussi graves sur sa valeur en tant qu'homme. L'existence que l'on a menée jusque-là n'a quasiment plus de sens. Elle vous semble vaine. Quand on est jeune, il reste encore la possibilité de changer, il y a encore de l'espoir. Mais à mon âge, on éprouve douloureusement le poids de son passé, et on ne peut pas se refaire aussi facilement. Ce livre sur les camps de concentration a donc été l'élément qui a déclenché ces sombres pensées. Oui, il m'a atteint d'une manière étrange. C'est un choc que j'ai subi personnellement. À cela s'ajoute le fait que mon avenir avec cette femme est aussi incertain, ce qui m'a précipité depuis un certain temps dans un état de dépression latente, la crise de la cinquantaine. Et je m'interroge sans relâche, qu'est-ce que je suis au fond? Mais j'ai beau ressasser constamment ces mêmes idées, aucune porte de sortie ne m'apparaît. Je ne fais que tourner en rond, j'ai perdu tout intérêt pour ce que auparavant je faisais avec plaisir, je n'ai plus le goût de pratiquer un sport ou d'acheter des vêtements, et même m'asseoir au piano me pèse. La nourriture ne me dit plus rien. Toutes mes pensées sont focalisées sur elle. Elle seule hante mon cerveau. Et même lorsque je suis au travail, je ne songe qu'à elle. Il m'arrive de prononcer son prénom, involontairement. Vous voyez beaucoup? C'est très variable. Ça dépend du planning de son mari. Et c'est aussi quelque chose qui m'est pénible. Quand il est parti pour un long voyage, nous pouvons nous voir constamment. Elle fait alors garder son enfant par ses parents, ou bien engage une babysitter. Mais quand son mari est au Japon, il se passe parfois plusieurs semaines sans qu'on se voie. Ce sont pour moi des moments de terrible souffrance. À la seule pensée que je pourrais ne jamais la revoir, pardon pour cette expression galvaudée, je me sens comme déchiré. Je l'écoutais en silence. Ces mots étaient peut-être banals, mais ils ne me semblaient pas galvaudés. Ils sonnaient juste. Il inspira lentement, souffla. J'ai toujours eu plusieurs petits amis en même temps. Ça va peut-être vous paraître choquant, mais il m'est arrivé d'en avoir 4 ou 5 simultanément. Si l'une d'elles avait un empêchement, je pouvais me rabattre sur une autre. C'était assez pratique. Mais depuis que je suis tombé amoureux, bizarrement, les autres femmes ont perdu tout attrait à mes yeux. Même en compagnie de l'une d'elles, c'est son image à elle que j'ai en tête. Elle est là sans cesse, impossible de l'en chasser, comme si j'étais atteint d'une maladie grave. Une maladie grave, songeais-je. J'imaginais Tokai saisissant le téléphone et appelant une ambulance. Allô, vite, c'est une urgence. Je ne peux plus respirer et ma poitrine se déchire. Il poursuivit. Le gros problème, c'est que plus je la connais, plus je suis amoureux. Je l'ai rencontrée il y a 1 an et demi déjà, mais chaque jour, je suis davantage épris. Je sens qu'un lien très fort s'est noué entre nous. C'est comme si chaque mouvement de son cœur entraînait le mien, à la manière de 2 canaux reliés par une corde. Mais aurait-on l'idée de la couper que l'on ne trouverait aucun couteau qui y parvienne? Jamais de ma vie je n'avais éprouvé ce genre d'émotion. Cela m'angoisse. Car si je continue ainsi à plonger toujours plus profond dans cette passion, que vais-je devenir en fin de compte? En effet, dis-je. Mais Tokai semblait en quête d'une réponse plus substantielle. Dites-moi, que dois-je faire? Selon moi, il n'avait rien à faire de particulier. Après l'avoir écouté, je pensais reconnaître et comprendre les sentiments qu'il éprouvait. C'était ce qu'en général on appelait être amoureux. Vous ne pouvez plus contrôler votre cœur, vous êtes comme tourneboulé par des forces irrationnelles. Cela ne signifie pourtant pas qu'il s'agit là d'une expérience insensée, qui irait à l'encontre de ce que connaît le commun des mortels. Vous êtes juste profondément amoureux. Vous ne voudriez en aucun cas perdre la personne aimée. Vous aimeriez être toujours avec elle. Vous imaginez que si vous ne la voyez pas, ce sera peut-être la fin du monde. Ce sont des émotions parfaitement naturelles, couramment éprouvées. C'est extrêmement ordinaire. Cela n'a rien d'étrange ni de singulier. Le docteur Tokai croisa les bras et médita de nouveau longuement mes paroles. Il semblait ne pas tout à fait les accepter. Peut-être avait-il du mal à comprendre que son état était extrêmement ordinaire, ou qu'en fait, être amoureux n'était pas si extraordinaire. Après avoir bu nos bières, et alors que nous étions sur le point de nous séparer, il me dit, sur le ton de la confidence, « Vous savez, ce que je redoute le plus aujourd'hui, ce qui me tourmente avant tout, c'est cette sorte de colère qu'il y a en moi. » « De la colère ?» J'étais un peu étonné. Cette émotion ne me semblait pas correspondre à son tempérament. « Contre quoi est dirigée votre colère ?» Il secoua la tête. « Je n'en sais rien moi-même. En tout cas, je suis certain qu'elle n'est pas dirigée contre elle. Mais quand je ne peux pas la voir, je sens monter en moi de la colère. Contre quoi, je ne comprends pas très bien. Mais alors jamais jusqu'alors je n'avais ressenti une fureur pareille, au point d'avoir envie de tout jeter par la fenêtre, les chaises, la télé, les livres, la vaisselle, les cadres, tout quoi. » Je sais bien pourtant que tout ça pourrait tomber sur la tête des gens qui marchent dans la rue et les tuer. C'est complètement fou. Mais dans ces moments-là, j'y pense sérieusement. Bien sûr, jusqu'ici, je me contrôle. Je ne ferai jamais une chose pareille, mais peut-être qu'un jour, je ne me maîtriserai plus. Et là, je risquerai de blesser quelqu'un. C'est pourquoi j'ai peur. Je préférerais me blesser moi-même. Je ne me souviens plus très bien de ce que je lui répondis alors. Sans doute quelques paroles inoffensives pour le réconforter, car je ne comprenais pas tout à fait ce que signifiait la colère dont il parlait, ou à quoi il faisait allusion. Il aurait dû s'exprimer de manière plus précise, mais même s'il l'avait fait, cela n'aurait sans doute rien changé au sort qui l'attendait. J'en ai le sentiment. Après avoir réglé l'addition, nous quittâmes le pub et chacun prit le chemin de chez soi. Il monta dans un taxi avec son sac de sport au bras, et une fois à l'intérieur, agita la main pour me dire au revoir. Ce fut la dernière fois que je vis le docteur Tokai. Nous étions fin septembre, il restait encore un peu de la chaleur de l'été. Le docteur Tokai ne revint plus à la salle de sport. J'y allais exprès durant le week-end dans l'espoir de le rencontrer, mais ce fut en vain. Sur place, personne ne savait ce qu'il était devenu. C'est cependant une chose assez habituelle dans ce genre d'endroit. On voit quelqu'un constamment et puis un jour on ne le voit plus. Une salle de sport n'est pas un bureau. Les gens y viennent, ou pas, en toute liberté. Moi non plus, du reste, je ne me sentais pas particulièrement soucieux. 2 mois s'écoulèrent ainsi. Un vendredi après-midi, à la fin du mois de novembre, je reçus un coup de téléphone du secrétaire de Tokai. Il s'appelait Goto et parlait d'une voix basse et douce qui me rappelait celle de Barry White, que j'entendais souvent la nuit sur la FM. Je suis confus de vous appeler brusquement, mais le docteur Tokai est mort jeudi dernier. La cérémonie funéraire qui se tiendra en tout petit comité aura lieu lundi prochain. Il est mort, répétai-je abasourdi. Mais lorsque je l'ai vu il y a 2 mois, il m'a paru en bonne santé. Que lui est-il arrivé? À l'autre bout du fil, il y eut un silence bref. Puis Goto reprit. À vrai dire, de son vivant, le docteur Tokai m'avait fait promettre de vous donner quelque chose. Excusez-moi d'insister, mais pourrions-nous nous retrouver quelque part afin d'avoir une petite conversation? Je pourrais alors vous expliquer tous les détails de l'histoire. De mon côté, je peux me déplacer n'importe où, n'importe quand. Pourquoi pas aujourd'hui, lui répondis-je. Goto me dit qu'il était d'accord. Je lui indiquai une cafétéria située dans une ruelle à l'arrière d'Aoyamadori, à 18h. Là-bas, nous pourrions parler tranquillement. Goto ne connaissait pas l'établissement, mais, me dit-il, il le trouverait facilement. Je pénétrai dans la cafétéria à 17h55. Il était déjà assis là, et il se leva en hâte alors que je m'approchais. À cause de sa voix grave au téléphone, j'avais imaginé un homme corpulent, mais en réalité, il était grand et mince. Comme Tokai me l'avait dit, il était beau garçon. Il portait un costume de laine marron, une chemise button-down, d'un blanc éblouissant, et une cravate d'une teinte moutarde foncée. Un ensemble impeccable. Même ses cheveux assez longs étaient parfaitement coiffés et retombaient joliment sur son front. Il devait avoir 35 ans environ, et si Tokai ne m'avait pas dit qu'il était gay, je n'y aurais jamais pensé. C'était simplement un homme qui conservait une allure juvénile, très élégant, arborant une barbe fournie. Un double express était posé sur la table devant lui. Après de sobres présentations, je commandai à mon tour un double express. « Il a donc disparu de manière vraiment soudaine ? » demandai-je. Le jeune homme plissa les paupières, comme s'il était ébloui par une lumière trop forte. « Oui, en effet. Sa mort a été très brutale. C'était tout à fait inattendu. Pour autant, elle n'a pas été rapide, et plutôt très douloureuse. » J'attendis en silence la suite de ses explications. Mais durant quelques instants, jusqu'à ce qu'on m'apporte mon café sans doute, il ne sembla pas désireux de me donner plus de détails. « Je respectais profondément le docteur Tokai, déclara-t-il, comme pour changer de sujet. C'était vraiment quelqu'un de remarquable, aussi bien le médecin que l'homme. Il m'a énormément appris. Voilà près de 10 ans que je travaille dans sa clinique, et si je n'avais pas eu la chance de le rencontrer, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. » C'était un être sincère, dépourvu d'arrière-pensée, toujours affable, ne se montrant jamais dédaigneux, avec le souci permanent d'être impartial. Il était aimé de tous. Pas une seule fois je ne l'ai entendu dire du mal de quelqu'un. Moi non plus, en effet, je ne l'avais jamais entendu médire. « Le docteur Tokai m'a souvent parlé de vous, dis-je. Sans vous, disait-il, la clinique n'aurait pas fonctionné aussi bien, et sa vie personnelle en aurait également pâti. » Goto eut alors un pâle sourire, teinté de tristesse. Non, non, je n'étais pas aussi important. Je m'efforçais simplement de lui être utile. C'est ce que j'ai vraiment essayé de faire, et j'en étais heureux. On m'apporta mon express, et une fois le serveur disparu, Goto me raconta enfin la mort du docteur Tokai. Le premier changement que j'ai remarqué, c'est que le docteur ne prenait plus de déjeuner. Jusqu'alors, il avait toujours fait un petit repas à la pause de midi, mais même s'il se contentait de choses simples, il avait beau être occupé, il déjeunait toujours ponctuellement. Et puis au bout d'un moment, il n'a plus rien mangé à cette heure-là. Quand je le priais de prendre quelque chose, il me répondait de ne pas faire de soucis, qu'il n'avait simplement pas d'appétit. C'était début octobre. Ce changement m'a préoccupé car le docteur était un homme d'habitude et il était réticent à les bousculer. Ses routines quotidiennes étaient importantes pour lui. Par ailleurs, il n'allait plus à la salle de sport. Auparavant, il s'y rendait 3 fois par semaine, il nageait, il jouait au squash, faisait de la musculation. Il semblait avoir perdu tout intérêt pour ses activités. Ensuite, il a commencé à se négliger. Lui qui était toujours soigné et élégant, comment dire, peu à peu il s'est laissé aller. Il lui arrivait de ne pas se changer durant plusieurs jours. Il est devenu taciturne, comme s'il était sans cesse absorbé dans ses pensées, et bientôt il n'a presque plus prononcé un mot. De plus en plus souvent, il semblait absent. Lorsque je lui parlais, on aurait dit qu'il ne m'entendait pas. Et puis, il a arrêté de rencontrer des femmes après son travail. Vous étiez tout à fait en mesure de constater ce changement, n'est-ce pas, puisque c'est vous qui organisiez son planning. En effet, les rendez-vous avec les femmes, pour le docteur Tokai, étaient le moment les plus importants de ses journées, pour ainsi dire la source de sa vitalité. Il y avait là quelque chose d'anormal à ce qu'il y renonce totalement. À 52 ans, on n'est pas trop vieux. Je suppose que vous savez, n'est-ce pas, qu'en ce qui concerne les femmes, le docteur Tokai avait une vie extrêmement active. Il ne s'en cachait pas, sans chercher pour autant à s'en vanter, simplement il en parlait ouvertement. Goto hocha la tête. Oui, sur ce plan, il était très franc. Il m'avait fait beaucoup de confidences à ce sujet. Aussi, quand j'ai constaté ce changement brutal, cela m'a causé un vrai choc. Mais il ne m'a rien dit de plus. Quel que soit le sujet qui le préoccupait, il l'a gardé pour lui, comme un secret. Naturellement, je lui ai demandé si quelque chose d'inhabituel ou de grave le tourmentait, mais il s'est contenté de secouer la tête sans me confier ce qui l'inquiétait. Il ne me parlait presque plus alors. De jour en jour, je le voyais devenir plus maigre, plus pâle. Il est évident qu'il ne s'alimentait pas suffisamment. Il m'était cependant impossible de m'immiscer dans sa vie personnelle. Le docteur Tokai était un homme très affable, mais il ne laissait personne pénétrer à l'intérieur de sa sphère privée. Moi, qui étais depuis si longtemps son secrétaire particulier, je n'étais entré chez lui qu'une fois. Et encore, était-ce parce que je venais chercher quelque chose d'important qu'il avait oublié? Les seules personnes autorisées à entrer chez lui étaient sans doute les femmes avec lesquelles il avait des relations intimes. Quant à moi, malgré mon inquiétude, je ne pouvais que me livrer à des suppositions en gardant mes distances. Goto soupira doucement, comme pour manifester sa résignation vis-à-vis de ces femmes avec lesquelles il avait des relations intimes. Il était donc plus maigre, demandai-je? Oui. Ses yeux s'étaient profondément enfoncés dans ses orbites, et il avait le visage aussi blanc que du papier. Sa démarche s'était fait chancelante, et il ne pouvait plus tenir un bistouri en main. Bien entendu, il n'était plus en état de pratiquer des interventions chirurgicales. Heureusement, il avait un bon assistant, capable de le remplacer provisoirement, mais il était clair que cette situation ne pouvait s'éterniser. J'ai dû passer je ne sais combien de coups de fil pour annuler les rendez-vous. L'activité de la clinique était presque au point mort. Vers la fin, le docteur Tokai ne se montrait quasiment plus. C'était les derniers jours du mois d'octobre. J'ai téléphoné chez lui. Personne ne m'a répondu. 2 jours se sont écoulés, sans que je parvienne à le joindre. Comme il m'avait confié un double de ses clés, le matin du 3e jour, je l'ai utilisé pour rentrer chez lui. Je sais que je n'aurais peut-être pas dû agir ainsi, mais j'étais vraiment trop inquiet. À peine la porte ouverte, j'ai senti une terrible odeur. Toutes sortes de choses étaient éparpillées au sol, surtout des vêtements. Costumes, cravates, sous-vêtements. Comme si rien n'avait été rangé depuis des mois. Les fenêtres étaient hermétiquement closes. L'air stagnait. Et j'ai vu que le docteur était allongé sur son lit, complètement immobile.